De là, indépendamment du hasard des rangs pour être appelé à choisir, une sorte d'échange des biens et des maux pour la plupart des âmes. Ainsi, un homme qui, à chaque renouvellement de sa vie d'ici-bas, s'appliquerait constamment à la saine philosophie et aurait le bonheur de ne pas être appelé des derniers à choisir, il y a grande apparence, d'après tout ce récit, que non seulement il serait heureux dans ce monde, mais encore que, dans son voyage d'ici, là-bas, et dans le retour, il marcherait par la voie unie du ciel, et non par le sentier pénible de l'abîme souterrain. L'Arménien ajoutait que c'était un spectacle curieux de voir de quelle manière chaque âme faisait son choix. Rien n'était plus étrange, plus digne à la fois de compassion et de risée. C'était la plupart du temps, d'après les habitudes de la vie antérieure, que l'on choisissait. R avait vu, disait-il, l'âme qui avait appartenu à Orphée, choisir l'âme d'un cygne en haine des femmes qui lui avaient donné la mort autrefois. Ne voulant devoir sa naissance à aucune d'elles, l'âme de Tamiris avait choisi la condition d'un rossignol. Et réciproquement, un cygne, ainsi que d'autres animaux, musiciens comme lui, avait adopté la nature de l'homme. Une autre âme, appelée la vingtième à choisir, avait pris la nature d'un lion. C'était celle d'Ajax, fils de Télamon. Ne voulant plus de l'état d'homme, en ressouvenir du jugement qui lui avait enlevé les armes d'Achille. Après celle-là, vint l'âme d'Agamemnon, qui, ayant aussi en aversion le genre humain à cause de ses malheurs passés, prit la condition d'aigle. L'âme d'Atalante, appelée à choisir vers la moitié, ayant considéré les grands honneurs rendus aux athlètes, n'avait pu résister à l'envie de devenir athlète elle-même. Épée, fils de Panopée, était devenue une femme industrieuse. L'âme du bouffon Tersite, qui se présenta des dernières, revêtit le corps d'un singe. L'âme d'Ulysse, à qui le hasard avait donné le dernier sort, vint aussi pour choisir. Mais le souvenir de ses longs revers l'ayant désabusé de l'ambition, elle chercha longtemps et découvrit à grand-peine, dans un coin, la vie tranquille d'un homme privé que toutes les autres âmes avaient laissé dédaigneusement à l'écart. En l'apercevant enfin, elle dit que, quand elle aurait été la première à choisir, elle n'aurait pas fait un autre choix. Pareillement, les animaux changent leurs conditions pour la condition humaine ou pour celle d'autres animaux. Ce qui a été injuste passe dans les espèces féroces. Ce qui a été juste dans les espèces apprivoisées. De là, des échanges de toutes sortes. Après que toutes les âmes eurent fait choix d'une condition, elles s'approchèrent de l'Achésis, dans l'ordre suivant lequel elles avaient choisi. La Parque donna à chacune le génie qu'elle avait préféré, afin qu'il lui servît de gardien durant le cours de sa vie mortelle et qu'il lui aidât à remplir sa destinée. Ce génie la conduisait d'abord à Clotho, qui, de sa main et d'un tour du fuseau, confirmait la destinée choisie. Après avoir touché le fuseau, il l'amenait de là vers Atropos, qui roulait le fil pour rendre irrévocable ce qui avait été filé par Clotho. Ensuite, sans qu'il fût désormais possible de retourner en arrière, on s'avançait vers le trône de la nécessité, sous lequel l'âme et son génie passaient ensemble. Aussitôt que toutes eurent passé, Elles se rendirent dans la plaine du Léthé, où elles essuyèrent une chaleur insupportable, parce qu'il n'y avait ni arbres ni plantes. Le soir étant venu, elles passèrent la nuit auprès du fleuve Amélès, dont aucun vase ne peut contenir l'eau. Chaque âme est obligée de boire de cette eau en certaines quantités. Celles qui ne sont pas retenues par la prudence en boivent plus qu'il ne faut. À mesure que chacune boit, elle perd toute mémoire. On s'endormit après. Mais, vers le milieu de la nuit, il survint un éclat de tonnerre, avec un tremblement de terre, et aussitôt, les âmes furent dispersées çà et là, vers les divers points de leur naissance terrestre, comme des étoiles qui jailliraient tout à coup dans le ciel. Quant à lui, disait R, on l'avait empêché de boire de l'eau du fleuve. Cependant, il ne savait pas par où ni comment son âme s'était rejointe à son corps. Mais, le matin, ayant tout à coup ouvert les yeux, il s'était aperçu qu'il était étendu sur le bûcher. Ce mythe, mon cher Glaucon, a été préservé de l'oubli, et il peut nous préserver nous-mêmes de notre perte si nous y ajoutons foi. Nous passerons heureusement le fleuve Léthé, et nous maintiendrons notre âme pure de toute souillure. Et si c'est à moi, mes amis, qu'il vous plaît d'ajouter foi, persuadez que l'âme est immortelle et qu'elle est capable par sa nature de tous les biens comme de tous les maux, nous marcherons sans cesse par la route qui conduit en haut. Et nous nous attacherons de toutes nos forces à la pratique de la justice et de la sagesse, afin que nous soyons en paix avec nous-mêmes et avec les dieux. Et que, durant cette vie terrestre, et quand nous aurons remporté le prix destiné à la vertu, comme des athlètes victorieux qu'on mène en triomphe, nous soyons heureux ici-bas et dans ce voyage de 1000 années que nous venons de raconter.